Les mystères du Palais Royal, Xavier de Montépin. Première partie. Le diable. Chapitre 1. Le voyageur. Le 15 novembre 1700, vers les 9 heures du soir, une chaise de poste sortant de Saint-Germain se dirigeait du côté de Paris. Les 4 chevaux qui formaient son attelage étaient blancs d'écume et ruisselants de sueur, indice irrécusable de la course longue et rapide qu'il venait de fournir. Il semblait se mouvoir au milieu d'un nuage de vapeur qu'on discernait facilement à la lueur pâle des 2 lanternes de la voiture. L'obscurité était profonde d'ailleurs, et en dehors du cercle de lumière tremblotante projeté par ces lanternes, il était impossible de rien distinguer. Les rafales d'un vent impétueux mugissaient avec un bruit sourd à travers les arbres dépouillés de la forêt de Saint-Germain, et semblaient tantôt gémir comme des âmes en prière, tantôt s'irriter comme des voix colères et menaçantes. Des tourbillons de feuilles sèches venaient frapper les naseaux et le poitrail des chevaux, qui se cabraient d'épouvante. Une grosse pluie, entremêlée de grêlons assez forts, commençait à tomber. L'équipage allait s'engager dans les versants de cette rampe presque à pic, qui décrit sur le flanc de la montagne ses brusques sinuosités, soudain une véritable trompe de vent et de grêle enveloppa les chevaux et le carrosse. L'une des lanternes s'éteignit. Le postillon perdit son chapeau et se mit à jurer. Les chevaux hennirent avec terreur et reculèrent au lieu d'avancer. « Il ne faut pas tenter le bon Dieu !» murmura le postillon après un instant de lutte avec l'attelage récalcitrant. Et tout en parlant, il sauta à bas de son porteur et s'avança jusqu'à la portière de la voiture. En même temps, un domestique en livrée descendait du siège et se rencontrait à cette même portière avec le postillon. Un des petits rideaux de cuir qui protégeait l'intérieur du carrosse contre le vent et contre la pluie s'entr'ouvrit à demi, et une voix fortement timbrée appela. « Jacques ! Jacques !»« Je suis là, monsieur le chevalier !» répondit le valet en livrée. « Pourquoi donc ne marchons-nous plus ?» demanda la voix. Le postillon qui a l'honneur de conduire monsieur le chevalier est ici auprès de moi et pourra peut-être répondre. La voix répéta sa question. Par la nuit et par le temps qu'il fait, répliqua le postillon, il m'est impossible de gouverner mes chevaux. Rien n'est impossible de ce qu'on veut résolument, fit la voix. Remettez-vous donc en selle, mon ami, et marchons. Mes chevaux refusent d'avancer. Vous avez un bon fouet à la main et de bons éperons à vos bottes. « Servez-vous de l'un et des autres. »«
Ce sera comme si je chantais... »«
Essayez !»«
Nous nous casserons 100 fois le cou. »«
Puisque je risque le mien, qui cependant vaut mieux que le vôtre, c'est une mauvaise raison à donner. »«
Monsieur est le maître de faire de son cou ce que bon lui semble. »« Mais moi, qui ai une femme et des enfants, je tiens à sauver ma peau. »«
Ainsi, » demanda la voix avec un accent tout à fait énergique et railleur, « ainsi vous refusez de vous remettre en route. »
« Positivement. C'est votre dernier mot ?»«
C'est mon dernier mot. » Il y eut un instant de silence. Puis la voix reprit d'un ton merveilleusement calme.
« Jacques, tu es toujours là, j'imagine. »«
Oui, monsieur le chevalier. »«
Tu as de l'or dans tes poches ?»«
Oui, monsieur le chevalier. » »«
Donne 10 louis à ce brave homme, qu'il remonte à cheval et qu'il pique des deux. »«
Oui, monsieur le chevalier. » On entendit le bruit métallique des pièces d'or qui frétillaient dans une longue bourse que le valet venait de tirer de sa poche.
« Eh, l'ami, » dit-il au postillon, « étendez un peu la main par ici, s'il vous plaît. »«
Pourquoi faire ?»«
Pour que je vous donne 10 louis. »«
Ce n'est pas la peine. »«
Comment ce n'est pas la peine ?»«
Vous me donneriez 20 louis, vous m'en donneriez 100, que je ne marcherai pas. »«
Monsieur, » dit Jacques à son maître, « vous l'entendez ? Pour 100 louis, il ne marcherait pas. »«
Oh, j'entends à merveille !» reprit la voix. « Il n'y a plus qu'un moyen à employer. Mais celui-là, je le crois infaillible. »
Le rideau s'écarta tout à fait. Une main s'allongea en dehors de la voiture, tenant un objet dont l'obscurité ne permettait pas de bien distinguer la forme, et la voix continua.
« Jacques, monsieur le chevalier, prends ce pistolet.
Je le tiens. »
« Brûle la cervelle à ce drôle, monte à cheval à sa place et mène-nous bon train. »«
Oui, monsieur le chevalier, » répondit Jacques en armant avec le plus beau sang-froid du monde le pistolet que son maître venait de lui remettre. Le petit bruit sec et sonore des ressorts de la batterie produisit un effet magique sur le malheureux postillon.
« Grâce, grâce » cria-t-il tout éploré en se jetant à genoux.
Jacques approcha le bout du canon de son arme de la tempe du malheureux, puis il demanda.
« Monsieur le chevalier, faut-il tirer ?»«
Non, si ce coquin est enfin décidé à obéir. »«
Oui, s'il résiste encore, » répondit la voix.
« J'obéis, j'obéis !» s'écria le postillon. « Tout ce qu'on voudra, je le ferai. »
« Alors, à cheval !»
D'un seul bond, le postillon se remit en selle et ressaisit les rênes. Les rideaux de cuir se refermèrent et la voix reprit.
« Jacques, surveille ce drôle. Je tiens à arriver à Paris cette nuit. »
Selon son invariable habitude, le valet répondit d'une façon affirmative et le postillon, à moitié fou de frayeur, enfonça les molettes saignantes de ses éperons dans les flancs du cheval qu'il montait, tandis qu'il enveloppait les trois autres dans un vigoureux coup de fouet. L'attelage, exaspéré par la douleur, s'élança ou plutôt bondit en avant, et la voiture se mit à courir avec la rapidité de la foudre et le fracas de la tempête sur la route inclinée où, selon toutes les apparences, elle devait se briser 100 fois. Il n'en fut rien, cependant, et après quelques minutes d'une course presque aussi fantastique que celle de Lénore dans la ballade de Bürger, le carrosse roula sur un terrain plus uni et moins dangereux. Mais les chevaux étaient lancés à fond de train et leur impétuosité ne se ralentit guère. Leurs sabots ferrés faisaient jaillir des étincelles fugitives en heurtant les cailloux de la route. La voiture bondissait sur les pavés et s'enfonçait dans les ténèbres, ainsi qu'une vision infernale, et le postillon, presque couché sur son cheval dont ses deux mains avaient saisi la crinière, sentait la respiration lui manquer et se croyait le jouet de quelque nocturne et terrible cauchemar. Quant au voyageur qu'on appelait Monsieur le Chevalier et qui hasardait ainsi sa vie avec une témérité folle, il avait ouvert au grand large les rideaux de son carrosse. Il présentait sa tête nue aux glaciales caresses de la tourmente. Il aspirait à plein poumon la bise chargée de pluie qui le fouettait au visage. Il semblait absorber par tous les pores la volupté de vitesse.
Chapitre 2. L'hospitalité.
À une demi-lieue environ de Saint-Germain, entre le village de Port-Marly et les quelques maisons de Marly-la-Machine, se trouve aujourd'hui un très petit hameau qu'habitent exclusivement des paysans pêcheurs. On appelle ce hameau le Bas-Prunet. À l'époque où se passaient les faits dont nous sommes l'historien, il n'y avait à cet endroit qu'une seule maison, d'assez simple apparence, mais cependant maison de hobereaux plutôt que demeure de fermiers ou de paysans. On la nommait le Petit Chastel. Un écusson armorié sculpté au-dessus de la porte attestait les prétentions nobiliaires de ses possesseurs. À 50 pas du Petit Chastel, les pluies de l'automne et l'écoulement des eaux venant de la montagne avaient en partie défoncé la route. Les paysans, depuis 2 jours en train de la réparer, avait creusé sur la droite une profonde excavation et amoncelé des pavés et des moellons sur les bords de cette fissure. Ce même soir, en quittant leur travail à la nuit tombante, ils avaient placé une lanterne allumée au-dessus du tas de moellons, afin d'avertir les passants qu'il y avait là un péril à éviter. Mais les rafales de la bise avaient éteint la lanterne. Une obscurité impénétrable enveloppait les bords du gouffre, et c'est de ce côté que se dirigeait à toute bride l'équipage que nous avons laissé au pied de la descente de Saint-Germain. Les chevaux n'avaient point ralenti leur allure impétueuse. Ils étaient décidément emportés et les sourds craquements de la voiture semblaient annoncer une destruction prochaine. Soudain, ils atteignirent l'amas de pavés dont nous parlions il n'y a qu'un instant et vinrent s'y heurter avec une violence inouïe. Le choc fut terrible. Les 2 chevaux placés en tête de l'attelage furent culbutés et littéralement broyés. Les 2 autres, dans un suprême effort, se jetèrent sur la gauche et se débattirent au milieu de traits brisés, tandis que le carrosse, accroché au passage, tombait sur le côté, fracassé et entr'ouvert. Un gémissement plaintif et douloureux, qui s'éteignit dans un soupir, s'échappa de la voiture ainsi démolie. Le domestique avait été lancé à 10 pas en avant. Le cheval de droite, après de 20 efforts, s'était abattu sur les cadavres de ses compagnons. Et enfin, le porteur, débarrassé de ses traits rompus et affolé de terreur, se précipitait vers la gauche, entraînant avec lui le malheureux postillon. À 20 pas se trouvait la berge de la rivière. La Seine, gonflée par des pluies torrentielles, roulait presque au niveau de la route, avec une effrayante impétuosité, ses eaux noires et profondes. L'homme et l'animal disparurent dans le fleuve qui se referma sur eux comme un liquide émouvant linceul. Un cri suprême d'agonie et de désespoir retentit dans les airs. Mais ce cri fut éteint aussitôt que poussé, et l'on n'entendit plus que le fracas de la tempête et le bruit monotone, et qui semblait sinistre dans cette obscurité, des rouages gigantesques de la machine de Marly. Quelques minutes s'écoulèrent ainsi. Puis le valet qui gisait dans la boue, étendu comme une masse inerte, fit un léger mouvement, et, après 2 ou 3 tentatives infructueuses, parvint à se remettre sur ses jambes. Alors, il se tâta de la tête aux pieds avec une inquiétude manifeste, et il put s'assurer, non sans une satisfaction facile à comprendre, qu'il était tout entier, sain et sauf, sans fracture ni luxation, et qu'il en serait quitte pour des contusions assez fortes. À la suite d'une semblable chute, c'était, on en conviendra, joué de bonne heure. Jacques, après avoir payé ce petit tribut à la joie égoïste de sa conservation personnelle, Jacques, disons-nous, pensa à son maître qui, selon toute apparence, avait dû être moins favorisé que lui-même par le hasard. Il se dirigea donc à l'aveuglette et boitant un peu du côté de la voiture brisée. Il la trouva, nous le répétons, fracassée et entr'ouverte. « Monsieur le chevalier !» dit Jacques d'un ton bas et très ému. Aucune voix ne répondit à la sienne. « Monsieur le chevalier » répéta-t-il un peu plus haut. Même silence. « Peut-être, pensa Jacques, peut-être mon maître est-il sorti de la voiture ?» Et afin de s'assurer aussitôt du plus ou moins de fondement de sa conjecture, il enfonça son bras jusqu'à l'épaule dans l'une des ouvertures du carrosse dont il explora ainsi tout l'intérieur. Sa main rencontra presque à l'instant le corps inanimé du chevalier. « Diable ! Diable ! » se dit le valet. « Mon pauvre maître me semble en fort mauvaise situation. Voyons un peu. » C'est au figuré, bien entendu, que Jacques disait « Voyons un peu. » Car nous savons déjà que les ténèbres étaient compactes. Le fidèle serviteur se hissa sur la caisse renversée du carrosse. Il ouvrit la portière, arracha les rideaux de cuir dont il ne parvenait point assez vite à dénouer les cordons, et il attira à lui le corps sans connaissance qui s'affaissait dans l'un des angles. Mais la portière était étroite et le corps ne passait point sans peine. Cependant, Jacques redoubla d'efforts et le succès vint couronner enfin sa persévérance. Mais sans doute l'opération qu'il venait de mener à bonne fin avait déterminé chez le patient quelques douleurs aiguës, car le chevalier poussa un soupir plaintif, malgré son évanouissement profond. « Il vit !» s'écria Jacques. « C'est bon !» Il acheva son œuvre en enveloppant le corps dans un grand manteau, en le couchant sur la terre humide et en l'adossant à l'une des roues de la voiture brisée. « Maintenant » poursuivit-il en lui-même, car le bon Jacques, comme on voit, cultivait volontiers le monologue. « Maintenant, il s'agit de trouver un asile pour cette nuit. » À coup sûr, mon maître ne vivrait plus demain matin s'il restait jusque-là, comme en ce moment enfoncé dans la boue. Orientons-nous un peu. » Et il regarda tout autour de lui, espérant voir briller dans le lointain une lumière qui pourrait lui servir de phare et le guider vers un lieu habité. Son espoir ne fut point déçu. À quelques pas à peine apparaissait une faible lueur. Cette lueur brillait à travers les vitres de l'une des fenêtres du petit chastel. « En vérité, fit Jacques, c'est encore de la chance. » Et il marcha de ce côté. Chemin faisant, il faillit rouler dans l'excavation pratiquée au milieu de la route, cause première de tous les malheurs de cette fatale soirée. Il échappa cependant à cette nouvelle infortune et parvint sans encombre jusqu'à cette porte. À cette porte était scellé un lourd marteau de fer en forme de tête de chimère. Jacques le souleva et le laissa retomber à 2 ou 3 reprises. Un écho intérieur répéta le son en l'agrandissant, mais personne ne répondit à cet appel. Jacques se recula de quelques pas afin de regarder de nouveau les fenêtres. La lumière avait changé de place, donc les habitants de la maison n'étaient point endormis, et s'ils ne venaient pas, c'est qu'ils ne voulaient pas venir. Ceci était logique. Jacques revint à la porte et se remit à frapper plus fort et plus longtemps que la première fois. il ébranlait les massives planches de chêne hérissées de grosses têtes de clous. On eût dit qu'il cherchait à les enfoncer. Enfin, après plusieurs minutes d'attente, qui parurent longues comme un siècle au valet du chevalier, un pas léger se fit entendre dans le corridor intérieur. Ce pas s'approcha de la porte, et une voix féminine, voix évidemment jeune et douce, quoique tremblante d'émotion et sans doute aussi de frayeur, jeta ces mots à travers un étroit guichet. Vous qui venez à pareille heure troubler le repos des habitants d'une honnête et paisible demeure, passez votre chemin. Puis le guichet se referma. Au nom du ciel, cria Jacques avec un accent désespéré, au nom du ciel, écoutez-moi. La vie de deux hommes en dépend. Sans doute l'intonation du brave domestique avait été bien pathétique, car le guichet se rouvrit aussitôt. La vie de deux hommes? Répéta la voix féminine avec étonnement. Oui, dit Jacques, et si vous me repoussez, vous en répondrez devant Dieu. Que demandez-vous? L'hospitalité pour cette nuit. D'où venez-vous? De six lieues au-delà de Saint-Germain. Où allez-vous? À Paris. Qui êtes-vous? Le valet de chambre d'un malheureux gentilhomme, dont la chaise de poste vient de se briser sur un amas de décombres presque en face de votre maison, et qui est là, évanoui, mourant dans la boue et sous la pluie, au milieu des débris de son carrosse. « Comment s'appelle-t-il votre maître ? » fit la voix qui semblait émue. « Le chevalier Raoul de la Tremblay, » répondit Jacques. « Et vous dites que la voiture de ce gentilhomme s'est brisée presque en face de cette maison ? » ?»«
Je l'ai dit, je le répète. »
« Ne me sachez pas mauvais gré d'une méfiance bien naturelle, » reprit la voix. « Je vais m'assurer de la vérité de vos paroles, et ensuite je viendrai à votre aide, si vous avez réellement besoin de mon secours. » Le guichet se referma pour la seconde fois, et les pas s'éloignèrent dans le corridor intérieur. Au bout d'un instant, une fenêtre s'ouvrit au premier étage, et à cette fenêtre parut une femme secouant une torche dont la lumière éclatante illumina la route pendant une seconde, avant de s'éteindre sous les souffles de la tourmente. Cette seconde suffit pour éclairer les chevaux morts et les débris du carrosse. L'habitante du petit chastel n'hésita pas plus longtemps. Elle redescendit. Jacques l'entendit tirer des verrous non moins imposants par leur nombre que par leur solidité. Une lourde clé tourna dans une massive serrure, la porte roula sur ses gonds. Le valet se trouva alors face à face avec une jeune fille dont il n'eut pas le temps de détailler les traits, mais dont, au premier coup d'œil, la beauté lui sembla merveilleuse. Cette jeune fille était vêtue d'une robe de laine de forme monastique et de couleur sombre. Elle tenait une lampe à la main. Le regard qu'elle jeta sur Jacques n'exprimait plus la défiance, mais bien l'intérêt et la compassion. « Quelle nuit affreuse !» murmura-t-elle en regardant la route et en écoutant le vent mugir et la pluie tomber. Puis elle ajouta, en s'adressant à Jacques, « Hâtez-vous d'apporter ici votre maître, je le recevrai de mon mieux. »
Chapitre 3. Le petit chastel.
Jacques ne se fit pas répéter deux fois l'invitation de la jeune fille. À peine venait-elle de prononcer ces mots, « Hâtez-vous d'apporter ici votre maître, je le recevrai de mon mieux », qu'il s'élança au dehors, courut à la voiture, prit dans ses bras le corps toujours inanimé du chevalier et revint au petit chastel aussi vite que le lui permit le lugubre fardeau dont il était chargé. Aussitôt qu'il eut franchi le seuil de la maison hospitalière, la jeune fille referma derrière lui la porte d'entrée, assujettit les verrous et fit jouer la forte serrure. Ensuite, elle se retourna vers Jacques et lui dit en faisant quelques pas en avant, « Venez avec moi. » Jacques obéit. Il se trouvait en ce moment avec sa conductrice dans une sorte de vestibule long et étroit. Les murailles en étaient nues. Des dalles de pierre polie couvraient le sol. À droite et à gauche, il y avait des portes. La jeune fille ouvrit la troisième de ces portes à main droite et elle entra dans une vaste pièce où Jacques la suivit. Elle posa sa lampe sur le chambranle d'une haute cheminée grossièrement sculptée. Elle alluma à la flamme de cette lampe les deux bougies d'un petit candélabre en cuivre, et elle dit à Jacques, en désignant successivement chacun des objets dont elle parlait, « Dans cette alcôve, il y a un lit. Voici, à côté de cette cheminée, de grosses bûches et du menu bois. Préparez et allumez du feu. Découvrez le lit et couchez votre maître. Je reviendrai dans 10 minutes vous demander si vous avez besoin de quelque chose, et vous l'apporter moi-même, s'il est en mon pouvoir de vous le procurer. » Ensuite, sans attendre la réponse et les actions de grâce empressées de Jacques, la jeune fille reprit sa lampe, sortit de la chambre, et l'on entendit son pas qui montait à l'étage supérieur. La pièce du premier étage dans laquelle elle entra, en quittant la salle basse du rez-de-chaussée, était de dimension moyenne, et l'on retrouvait dans son ameublement un peu terni tout le luxe d'un autre âge. Les murailles étaient tendues en cuir de cordoue gaufrée. Un tapis des gobelins, aux dessins mythologiques et aux couleurs pâlies, couvrait le plancher. Les figures vigoureusement peintes de deux ou trois grands portraits de famille semblaient prêtes à sortir de leurs cadres armoriés. Un écusson, pareil à celui des portraits, se reproduisait en plusieurs endroits parmi les ornements de la cheminée. Les sièges étaient en ébène, ainsi que le lit à colonnes torses et à baldaquin. Autour des colonnes se drapaient lourdement d'amples rideaux de lampes cramoisies. Sous ces rideaux, et rendus plus pâles encore par l'opposition de leurs vives couleurs avec son teint livide, une femme était couchée, les yeux fermés, les lèvres entr'ouvertes, les mains croisées sur sa poitrine. Cette femme semblait endormie, mais le mouvement continuel de ses lèvres, qui murmuraient tout bas des paroles interrompues, démentait cet apparent sommeil. La souffrance se lisait dans tous ses traits, dans ses joues creuses, dans le cercle azuré qui marbrait le contour de ses grands yeux. Quant à son âge, il aurait été impossible de le déterminer à la première vue. Elle pouvait n'avoir que 40 ans, elle pouvait en avoir 60. On devinait cependant qu'elle avait été belle. Ses mains étaient blanches, fluettes, presque transparentes, et l'extrême maigreur de son corps apparaissait distinctement à travers les draps qui le recouvraient. Elle ouvrit les yeux et fit un mouvement au moment où la jeune fille entrait dans la chambre et s'approchait du lit. « Jeanne ?» lui dit-elle d'un ton sec et brusque. « D'où venez-vous ? Que se passe-t-il ? Et pourquoi me quittez-vous si longtemps ? Vous savez que je n'aime point la nuit à rester seule ainsi. » La jeune fille répondit doucement. « Vous avez entendu frapper à la porte tout à l'heure, n'est-ce pas, ma bonne mère ?»« Oui, » répondit la malade. « Sans doute des vagabonds, des coureurs d'aventure. » Peut-être des voleurs. Rien de tout cela, ma bonne mère. Un gentilhomme et son valet de chambre, victimes tous les deux d'un accident terrible. J'imagine que vous leur avez enjoint de passer leur chemin. C'était impossible. Impossible, dites-vous? Oui, ma mère. Et pourquoi cela, s'il vous plaît? Parce que le carrosse du gentilhomme est brisé et que lui-même, blessé dans sa chute, dangereusement peut-être, se trouve en ce moment sans connaissance. « Mais enfin, qu'en avez-vous donc fait de ce gentilhomme ?»« J'ai fait pour lui ce que commandait la charité évangélique. Je lui ai donné l'hospitalité. » Ces derniers mots semblèrent agir violemment sur la malade et la galvaniser en quelque sorte. Elle souleva son corps amaigri, elle s'appuya sur ses deux coudes. Ses yeux, ranimés pour un instant, lancèrent de fauves éclairs et elle répéta d'une voix rauque. « L'hospitalité ? Oui, ma mère !» « L'hospitalité !» poursuivit la malade en scandant pour ainsi dire chacune de ses paroles par un rire d'une effrayante ironie. « Ah, vraiment ? Mais après tout, quoi d'étonnant à cela ? Ne sommes-nous pas riches à être embarrassés de nos revenus ? N'avons-nous pas trop de pain pour nous nourrir ? Trop de bois pour nous chauffer ? Trop d'huile pour nous éclairer ? Et n'est-ce pas une action bien méritoire que d'ouvrir notre porte aux passants pour leur faire partager toute cette abondance et leur donner, comme vous dites, l'hospitalité ? L'hospitalité. Ah, vrai Dieu ! Notre maison est donc hospitalière ? Sur mon honneur, je n'en savais rien, et je trouve cela très curieux. Après avoir ainsi parlé, la malade se laissa retomber en arrière, suffoquée par un effrayant accès de rire nerveux. La jeune fille essaya de lui prendre la main, mais cette main lui fut brusquement retirée. Que fallait-il donc faire, mon Dieu ? Hasarda Jeanne d'une voix douce et timide. « Elle le demande !» s'écria la malade. « Oui, ma mère, je le demande !»« Il fallait fermer ma maison à ces aventuriers !»« Et laisser mourir à la porte ce malheureux gentilhomme !»« Mourir, mourir ! Qui vous dit qu'il serait mort ? Et d'ailleurs, que nous importe après tout ? Personne au monde ne s'inquiète si nous vivons ou si nous mourons. Ne nous inquiétons donc pas si les autres vivent ou meurent. Faisons à autrui ce qui nous est fait à nous-mêmes. C'est évangélique aussi, cela, ainsi que vous le disiez tout à l'heure.
évangélique et édifiant. » Et la malade, en proie à une nouvelle crise de son hilarité convulsive, se tourna du côté de la muraille, puis, malgré toutes les instances de sa fille, refusa d'ajouter une seule parole à celle qu'elle venait de prononcer.
« Pauvre mère, murmura Jeanne, comme elle souffre, comme les douleurs de l'âme et du corps ont modifié sa nature et aigri son caractère. Pauvre mère !»
Et sans articuler une seule plainte à propos de l'accueil qu'elle venait de recevoir et qui cependant ne lui semblait pas mérité, elle sortit doucement de la chambre et redescendit l'escalier qui conduisait au rez-de-chaussée. Elle frappa à la porte de la salle basse dans laquelle elle avait introduit les étrangers. Jacques accourut lui ouvrir cette porte. Un grand feu pétillait dans la cheminée. Le chevalier reposait sur le lit où il avait été placé tout habillé par les soins de son valet. Ses yeux étaient toujours fermés, il ne donnait aucun signe de vie.
« Comment va-t-il ? » demanda Jeanne.
« Son cœur bat, mademoiselle, » répondit Jacques, « mais il ne reprend point connaissance, et je ne sais comment arrêter le sang. »«
Le sang ? » s'écria la jeune fille avec un frisson involontaire. « Il y a donc du sang ? » ?»«
Voyez !» et Jacques, s'approchant du lit, souleva la tête de son maître. Un ruisseau pourpre filtrait d'une blessure faite un peu au-dessus de la nuque et tombait goutte à goutte à travers les cheveux de monsieur de la Tremblay. Une des ferrures de la voiture, faussée par la violence de la chute, avait entaillé le crâne du jeune homme. Le chevalier Raoul, étendu ainsi que nous l'avons dit sur un lit, qu'il tachait de son sang, ne pouvait manquer d'inspirer le plus vif intérêt. Sa figure, très pâle et soigneusement rasée, se couronnait de beaux cheveux bruns qu'il portait relevés à la mode du temps, mais sans poudre. Il paraissait âgé de 28 à 30 ans tout au plus. Son habit de voyage, en velours violet à liseré d'or, couvrait à demi une veste de satin gris-perle et dessinait une taille élégante et souple. Sa culotte de peau de chamois, mettant en valeur la perfection de sa jambe, s'ajustait sur des bottes molles à éperons d'argent. Rien ne se pouvait voir de plus merveilleusement fin que son linge et de plus beau que les dentelles de son jabot et de ses manchettes. Son pied et sa main, d'une petitesse et d'une forme toute patricienne, s'accordaient bien avec l'irréprochable distinction de son visage.